Mermet et son répondeur.
Bonjour, France Inter. Ben, je vois que vous n'avez pas changé depuis 50 ans, la guerre d'Algérie où j'étais. Ce que vous avez fait sur l'Argentine, c'est absolument dégueulasse. La façon dont vous avez parlé de l'armée française, c'est dégueulasse, c'est scandaleux. Allez vous faire foutre, France Inter, de gauche, extrême gauche. Merci.
Bonjour à toute l'équipe. Bravo. Bravo pour Monsieur Toublanc. Une enquête sidérante. Mais en plus, Didier Super, alors là, chapeau, c'est vraiment, c'est énorme. Bravo, continuez, merci. Arnaud de La Réunion.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toutes et à tous. Bon, bah écoute Daniel, méfie-toi quand cette femme te menace de t'accrocher à un croc de boucher, tu réponds ironiquement halal ou pas halal. Parce que c'est des gens terribles. Quand ils te parlent de la révolution de 93, enfin 89-93, avec le régime de la terreur, c'est pour faire oublier les 600 ans d'inquisition et les 2000 ans de terreur, sans compter les massacres qu'ils ont fait en Amérique latine, bien avant ton pape, machin truc. Regarde ce qu'ils font avec les homosexuels à l'heure actuelle. Méfie-toi, Daniel, retourne-toi quand tu marches dans la rue. Salut, bonne continuation, c'était Jean-Paul de l'Essonne.
Bonjour à tous et surtout à la dame qui parle des crocs de boucher. Alors madame, je vous retire le droit de dire que vous êtes chrétienne. Oui, le christianisme, c'est précisément la religion qui dévoile le système victimaire, le système du bouc émissaire et surtout la vengeance sur autrui appelant à la mort. Donc c'est pas du tout chrétien de faire ça, madame. Et regardez votre Seigneur sur la croix. Enfin, c'est clair, quoi. Comment, ayant un Dieu comme ça, vous pouvez souhaiter la mort de qui que ce soit? Alors, cela dit, madame, je fais partie de l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. Et sachez que si vous, même vous, si vous deviez être mis en prison et maltraité, nous interviendrions en votre faveur, madame. Allez, c'était Jérôme de Toulouse. Au revoir.
Alors oui, j'ai bien entendu Daniel Mermet qui a lu le passage de l'ancien cardinal Bergoglio assénant que le mariage homosexuel serait contraire au plan du Créateur. Alors ça montre bien que l'esprit de ce monsieur est à la fois totalitaire et complètement mégalomane, parce que d'abord, poser l'existence de Dieu comme irréfutable, c'est un abus. Au regard de la connaissance qu'on a par rapport à la matérialité, au sens qu'on peut lui donner, on peut poser la question de la transcendance, on peut poser la question d'une immanence, on peut poser la question d'un mysticisme, mais interpréter ceci à des finalités d'esclavagiser une partie de la population, ça ne fait que prolonger le totalitarisme procédant de toute religion, de toute éternité. Et tout ceci, bien entendu, pour discriminer les homosexuels, exhorter leur conversion ou leur dénier des droits au même titre que les hétérosexuels, au même titre que les autres citoyens. Voilà donc à qui on a affaire, et je crois que quels que soient ses rapports avec les pauvres ou avec la dictature argentine, ce monsieur Bergoglio n'est qu'un tout petit monsieur. Merci.
Bonjour à tous, bonjour Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, eh ben, dans la nuit de samedi à dimanche, il fallait pas s'y trouver près du métro dans le 19e à Paris. L'intolérance rôdait et elle a frappé encore avec l'agression d'une violence très grave, trop grave, envers un couple de garçons, Wilfried et Olivier. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette barbarie? Indignez-vous, nous disait Stéphane Hessel. Farid du 19e. Allez, à bientôt Daniel sur l'antenne.
Oui, bonjour, ici Carole. J'avais laissé deux messages tout à l'heure contre le mariage pour tous pour des arguments tout à fait solides. Je suis étonnée que France Inter sélectionne ainsi les messages et fait en sorte de ne pas parler des problèmes réels de la France. Alors il est facile d'aller regarder à la porte du voisin tous ses défauts, mais il faudrait quand même s'interroger aussi sur vous-même et sur parfois les fausses informations que vous passez et surtout sur la censure. Vous faites en sorte que de ne jamais montrer la colère des citoyens, et ça, c'est grave. Alors, vous pouvez faire votre pub pour le mariage pour tous et pour des tas de saloperies, mais vous savez, le peuple va résister. Il ne va plus obéir à vos lois parce qu'ils sauront d'où elles viennent. Le mariage pour tous, personne ne l'accepte.
Oui, bonjour. Je viens d'entendre le message de détresse de la personne qui a du mal à nourrir ses enfants. Écoutez, si c'est possible de participer à une aide, voilà, pour la sortir de la mouise, je suis d'accord. À bientôt, au revoir.
Voilà, vous avez été nombreux à être émus par le message de l'auditrice qui hier expliquait pour comment elle était en difficulté pour une dette de 450 euros, je crois, pour la cantine de ses enfants. Comment elle avait les huissiers, etc. Elle était un peu désemparée. Donc vous avez été ému, pas mal de messages de soutien, d'encouragement, d'amitié. Et de comment l'aider, dites-vous. Alors, on lui a demandé si elle était d'accord pour qu'on donne son mail à l'antenne. Elle est d'accord. Et donc vous allez pouvoir entrer en contact avec elle. Alors voilà, c'est sylvie.chansard. CHANSARD at orange.fr. Je répète, sylvie.chansard at orange.fr. Aujourd'hui, on continue avec Monsieur Toublanc. Je vais revenir un peu sur les observations qui ont été faites par un auditeur qui me dit que le journal Parina Dossé, le journal argentin, n'est pas un journal d'opposition. C'est vrai aujourd'hui, mais dans les éléments qu'on vous a fait entendre hier, il s'agissait de reportages de 1995 avec Horacio Verbitsky. Et à l'époque, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce journal était un journal d'opposition, puisque c'était Menem qui était au pouvoir. Quant à l'attitude aussi de Correa, le président d'Équateur en faveur du pape, ce président, un soutien de la théologie de la libération, et c'est vrai qu'il approuve, qu'il était heureux de voir ce pape, ce nouveau pape élu. Ça fait partie des contradictions qu'on abordera aujourd'hui dans cette émission avec ce pape si simple, si proche des pauvres, qui prend le métro et qui aime le tango. Vous avez vu comment les médias se sont tous agenouillés, comment les fidèles ont exulté et comment ce pape fait l'unanimité. Unanimité ou presque, on essaye de le dire depuis plusieurs jours, vous aviez entendu dès son élection, des petits bruits de casserole, et on va revenir là-dessus, bruit de casserole autour de son silence, alors que l'Église catholique d'Argentine collaborait lors de la dictature, collaborait étroitement et justifiait et bénissait des tortionnaires. On a vu comment ces tortionnaires étaient inspirés par des militaires français qui venaient directement, parfois d'Indochine, en tout cas d'Algérie, pour enseigner leur méthode de torture et de répression. Et ce qui marque, en tout cas au minimum, l'attitude de notre actuel pape à l'époque où il était supérieur des jésuites, c'est le silence. C'est le silence et... une interrogation qui nous intéresse en fait beaucoup. Le pape actuel est le pape des pauvres, qui considère les pauvres comme l'objet de sa compassion et de sa bonté. Or, il y a un autre courant très ancien dans l'Église, et non seulement dans l'Église, qui veulent que ces pauvres ne soient pas des objets, mais des sujets. Et cela même au sein de l'Église catholique, que l'émancipation des opprimés soit l'œuvre des opprimés eux-mêmes. Ce courant dissident fut combattu et résiste, voire le président Correa, par exemple, président de l'Équateur, c'est celui de la théologie de la libération, qui peut se résumer dans la fameuse formule de l'évêque brésilien dont Helder Camara, qui disait ceci, c'était un évêque proche de la théologie de la libération, qui disait ceci, cette phrase bien célèbre, « Si je nourris un pauvre, on me dit que je suis un saint. Si je demande pourquoi le pauvre n'a pas de quoi se nourrir, on me traite de communiste. » Il semblerait que le pape actuel ne puisse pas être, en effet, traité de communiste. C'est ce qu'on va essayer de poser comme question dans cette nouvelle balade aujourd'hui avec Monsieur Toublanc. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Ouais, salut à tous, c'est pour vous indiquer que ce soir, à l'initiative des Repères d'Aix et Marseille, il y a Hervé Kempf qui vient présenter son dernier livre à 19h à l'Équitable Café, et puis que samedi à midi et demi à Nice, sur la place Masséna, il y a un rassemblement pour semer la ZAD dans la plaine du Var, c'est-à-dire occuper les terres agricoles. C'est aussi une manifestation pour manifester contre l'austérité. Allez, ciao, vive, portez-vous bien.
Deux papes, le nouveau et l'ancien, sont assis sur un banc. Passe alors une petite fille de 9 ou 10 ans avec son cartable. Ils la suivent du regard jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. À ce moment-là, Benoît se retourne vers son successeur et lui dit « Pas mal, hein ?» Et lui de répondre « ah oui, elle a dû être belle. » Voilà, c'était un message d'Aurélien qui espère bien qu'un jour, un facho essayera de le pendre à un croc de boucher. Histoire de rire un peu.
Habemus Papam.
On arrête évidemment puisqu'on va aller à Rome et apparemment c'est donc une fumée blanche que l'on puisse voir, donc que l'on peut voir à cette heure-ci maintenant depuis le Vatican. Donc c'est un événement extrêmement important apparemment. Donc un pape a été nommé, la fumée blanche vient d'apparaître au-dessus de la chapelle Sixtine.
Habemus Papam.
À l'annonce de la divine nouvelle, le peuple argentin de Buenos Aires a spontanément afflué vers la cathédrale pour célébrer son ancien archevêque.
Il faut prier pour sa santé. Je travaille en prison et l'an dernier, il est venu et a lavé les pieds d'un prisonnier. C'est un saint.
Georges Bergoglio, un fils de cheminot d'origine italienne, un fan de foot, préférant le métro aux voitures de fonction avec chauffeur. Mais son exemplarité ne fait pas l'unanimité. Les années de plomb de la dictature constituent, selon certains, une zone d'ombre dans le passé du prélat. Selon ses détracteurs, il n'aurait pas suffisamment protégé deux prêtres considérés comme subversifs qui seront emprisonnés et torturés.
Lo primero que hace Orlando...
À sa libération, la première chose que fait Orlando, c'est d'appeler Bergoglio au téléphone. Et Bergoglio répond, je ne peux pas t'aider.
Arréglate.
Débrouille-toi.
Hay un testigo.
Il y a un témoin.
¿Con quién hablaste?
Qui demande
con quién habló?
À Bergoglio, avec qui tu as parlé?
No importa, contesta Bergoglio. Que se joda.
Et Bergoglio a répondu, c'est pas grave, qu'il aille se faire foutre.
¿Puede traducir esto, que se joda?
Vous pouvez traduire que se joda, oui, qu'il aille se faire foutre.
Que se joda.
Qu'il aille se faire foutre.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao et Guy Van Cotillet, Monsieur Toublanc.
Flight number 2, arriving from New York.
Le pape qui dépote. Martine Sèvres-Grand, vous avez sans doute remarqué ce titre d'un grand hebdomadaire français, en hommage donc admiratif, le pape qui dépote. À notre, à ce nouveau pape, je suis pas sûr que ce soit le nôtre, forcément, à ce nouveau pape, le pape François. Martine Sèvres-Grand, vous êtes historienne, vous êtes membre du groupe Société, Religion, Laïcité du CNRS, et je suis ravi de vous rencontrer, parce que nous nous demandons qui est ce pape. Il y a quand même eu des alertes étonnantes, des soupçons sur son passé en Argentine, durant la dictature. Voilà. Et aujourd'hui, tout ça, ça s'évapore un petit peu, ça s'évapore même complètement. Tout le monde est sous le charme, tout le monde est ravi. Voilà un pape des pauvres qui a dit qu'il voulait une église pauvre pour les pauvres. Et le voilà qui lave les pieds des pauvres et des gens reclus. Enfin, tout un tas de symboles qui en font un homme sympathique, généreux, un symbole de cette Église, de la générosité, de la charité. Je voudrais savoir un peu votre point de vue en tant qu'historienne, alors, des religions et notamment quand même du catholicisme.
Oui. D'abord, je voudrais dire que l'extase journalistique, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, que l'on constate autour du pape François est classique. Je veux dire que tout pape est l'objet d'un véritable culte. Ratzinger, quand il est élu et quand il démissionne, est aussi l'objet d'un véritable culte. Regardez, il y a eu plusieurs hors-série qui sont parus à la gloire de Benoît XVI. Le Figaro a fait un hors-série.
Rien d'étonnant, le Figaro...
Paris Match a fait aussi l'éloge de Benoît XVI. Mm-hmm. Bon, donc là, il y a quelque chose de classique. Mm-hmm. Vous ne verrez pas la presse, en général, décrier un pape. Alors, en ce qui concerne le nouveau pape François, il a joué sur le contraste avec son prédécesseur, distant, appréciant le luxe aussi, il faut bien le dire, dans sa présentation, dans sa prestance, dans ses gestes. C'est une manière de s'affirmer en contraste avec son prédécesseur. Il a fait un certain nombre de gestes, de paroles aussi. Bon, vous avez évoqué le Vendredi Saint où il lave les pieds. Tous les évêques et tous les papes font ça, le Vendredi Saint. C'est pas nouveau, ça. Par contre, on voit des choses nouvelles. À peine élu, quittant la chapelle Sixtine, au lieu de prendre la limousine qu'on lui avance, il prend le bus des cardinaux pour rentrer à la maison Sainte-Marthe. Et puis, il décide d'y rester, au lieu d'aller occuper les appartements pontificaux. Il va régler la note de l'hôtel où il était descendu. Alors là, c'est extraordinaire. Bon. Mais il y a aussi des gestes qui sont en contraste avec son prédécesseur. Quand le Vendredi Saint au Colisée, il évoque nos amis musulmans, il n'est pas du tout dans la ligne de Ratzinger, parce que Ratzinger était extrêmement distant. Ratzinger considérait qu'il ne fallait rien lâcher aux musulmans en Europe, compte tenu des chrétiens qui étaient effectivement, dans un nombre de pays arabes, l'objet de persécutions. Bon, il évoque aussi l'Église des pauvres, mais aussi le peuple de Dieu. Alors, le peuple de Dieu, c'est, on pourrait dire, banal depuis Vatican II. Sauf que Ratzinger a déjà, avant d'être pape en 85, publié dans ses entretiens une critique de la notion de peuple de Dieu, parce que ça faisait trop collectiviste. Mmh. Donc, vous voyez, tout une série de gestes et de paroles où aussi il se démarque de son prédécesseur. Quant à ce qu'il a fait sous la junte,
alors,
moi, je ne peux rien apporter de nouveau à ce qui a été dit et écrit. Je remarque seulement deux témoignages contradictoires, vous allez voir. Dernièrement, le prix Nobel de la paix argentin, Pérez Esquivel, a fait des déclarations tout à fait favorables au pape François en disant que pendant la junte, il avait eu une diplomatie silencieuse. Alors oui, une diplomatie silencieuse, ça ne va pas très loin, ça fait penser aussi à Pie XII pendant la guerre et à son silence. Mais quand même, il essaye de le dégager des accusations.
Habemus papam.
Le pape n'a rien eu à voir avec la dictature.
No fue cómplice de la
Il n'a pas
dictadura.
Été complice no de la dictature. Los...
Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de la paix en 1980, 21 mars 2013.
Ce n'est pas l'évêque qui a été le plus en pointe sur la défense des droits de l'homme, parce qu'il a préféré une diplomatie silencieuse. Demander des nouvelles des gens disparus, des gens faits prisonniers, mais d'aucune façon on peut le lier à la dictature. Le président de la Cour suprême de justice a dit qu'il n'y avait aucune preuve ni d'accusation sur ce thème. Et le pape a dit très clairement de la défense des droits de l'homme qu'il faut chercher la vérité, la justice et la réparation.
De même, l'ex-franciscain Leonardo Boff, théologien de la libération.
Le brésilien.
Oui, le brésilien cette fois-ci. a dit que le pape François allait bouleverser l'Église, même sur les questions de morale sexuelle.
À en croire les informations que nous avons de la scène politique argentine de ces dernières années en matière...
Ça n'est pas du tout ça.
C'est pas ça du tout.
Non.
Il s'oppose au mariage homosexuel, de lois que le gouvernement argentin
a fait passer. Ce qui est étrange, c'est qu'en 2005, les deux mêmes avaient au contraire, au moment où Bergoglio était papabilé,
oui,
avait au contraire tiré à boulet rouge contre Bergoglio. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? En 2005, il n'est pas du tout acceptable.
Et puis, aujourd'hui, il l'est.
Aujourd'hui, il l'est.
Habemus Papam.
Alors, l'attitude de Bergoglio, je crois qu'elle s'inscrit dans toutes ces politiques.
Adolfo Pérez Esquivel, 2005.
Qui pense que tous ceux qui travaillaient socialement avec les secteurs les plus pauvres, les plus dans le besoin, étaient des communistes, des subversifs, des terroristes. Un pape doit avoir des définitions très claires et très concrètes. Bergoglio est un homme intelligent qui a des capacités, mais c'est une personne ambiguë. Et j'espère que le Saint-Esprit, le jour de l'élection, sera bien éveillé et qu'il ne se trompera pas.
Habemus papa papa.
Voilà, contradiction dans les déclarations et les positions de cette haute figure morale qui est Pérez Esquivel, à quelques années d'intervalle. Il faut rappeler qu'en 2005, Jorge Bergoglio était papabilé, était éligible. Il ne l'a pas été, mais il l'était à l'époque. Donc, changement de point de vue. On va demander à Martine Sèvres-Grand ce qu'elle pense de ces changements. Il faut rappeler que l'Église catholique, c'est une puissance idéologique, c'est une puissance morale, théologique bien évidemment, mais c'est aussi une puissance politique. Et que la politique, ça ne va pas sans tactique. Il faut de la tactique. Je voudrais évoquer rapidement la figure d'Emilio Mignone, qui est décédé maintenant, mais qui était, tout comme Pérez Esquivel, une grande figure des droits de l'homme à Buenos Aires, et qui, dans son livre, le livre qu'il a consacré à l'Église et à la dictature en 1986, était extrêmement sévère envers le pape actuel. Donc on voit que le bruit des casseroles n'est pas tout à fait si lointain que ça. Il reviendra probablement après cet état de grâce. Tactique ou non, qu'en pense Martine Sèvres-Grand?
J'ai pas d'interprétation, je constate ça et je me dis qu'est-ce que c'est que ça. Ça me semble très tactique, ces témoignages. Compte tenu de la situation très critique, pour ne pas dire pire, de l'Église catholique aujourd'hui, il se raccroche à un espoir.
C'est ça.
Situation critique non seulement en Europe, on le sait bien, je ne vais pas m'étendre, l'effondrement de la pratique religieuse, la disparition des prêtres, etc., etc. Non, je pense au déclin de l'Église en Amérique latine. Mmh. On l'oublie trop, on dit, oui, l'Amérique latine, c'est 40-42% des catholiques du monde entier, c'est formidable, etc. Mais cette Église en Amérique latine est en recul, déclin très rapide par rapport aux évangélistes. Il faut penser que dans un pays comme l'Argentine, justement, d'où vient Bergoglio, en 20 ans, 10% des Argentins ont quitté l'Église catholique et sont passés aux églises évangéliques. Au Brésil, c'est pire. Mmh. C'est à peu près 24% des Brésiliens qui se sont engagés dans ces églises. Mmh. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que le déclin du catholicisme en Amérique latine s'explique aussi par la politique de Jean-Paul II puis de Benoît XVI qui ont cassé la théologie de la libération, délibérément, parce que vous aviez des communautés de base, il y en a encore, certes,
oui,
mais quand même, elles ont diminué, qui étaient vraiment une église des pauvres. Et pour revenir au conservatisme, Alors, il y a des nominations d'évêques en Amérique latine qui ont été spectaculaires. Je peux donner l'exemple très connu de Monseigneur Elder Camara, pris sa retraite en 85, bon, vous le savez, et Elder Camara a été remplacé par un évêque qui s'est empressé de démolir tout ce qu'il avait fait dans son diocèse.
Vous citez Don Elder Camara, par la fameuse formule que je vais citer, il représente à peu près tout ce qu'on essaye de dire. C'est lui qui disait « Quand j'aide les pauvres, je suis un saint, et lorsque je demande pourquoi ils sont pauvres, je suis communiste. »
Voilà.
Le pape que nous avons maintenant, c'est celui qui aide les pauvres. C'est pas celui qui demande pourquoi ils sont pauvres.
Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que la carrière, si on peut dire, de Bergoglio commence par sa nomination comme archevêque auxiliaire de Buenos Aires en 92, et s'il est nommé par Jean-Paul II, c'est bien qu'il n'est pas un ecclésiastique favorable à la théologie de la libération que Jean-Paul II combattait. Ça, c'est très clair. Et s'il est nommé même cardinal en 2001, à plus forte raison.
Diversos hay en la noche. Sobre esos ruidos se alza el día. Nadie detiene al sol. Tiene al gallo canto. Nadie detiene al día. Habrá noches y días, aunque él no lo vea. Nadie detiene a la revolución. Nada detiene a la revolución. Nadie detiene al gallo cantor.
François, allusion sans doute à saint François d'Assise, le défenseur des pauvres.
TV5 Monde, 14 mars 2013.
C'est ainsi qu'il s'est toujours présenté. Georges Bergoglio, lui aussi, humble, un fils de cheminot d'origine italienne, un fan de foot, préférant le métro aux voitures de fonction avec chauffeur. Vivant dans un petit appartement près de la cathédrale de Buenos Aires, se déplaçant volontiers dans les paroisses des quartiers défavorisés, puisant sa force dans sa proximité avec les gens. Mais son exemplarité ne fait pas l'unanimité. Les années de plomb de la dictature constituent, selon certains, une zone d'ombre dans le passé du prélat. Selon ses détracteurs, il n'aurait pas suffisamment protégé deux prêtres considérés comme subversifs qui seront emprisonnés et torturés. Bergoglio s'en défend, expliquant avoir tout fait pour les protéger.
Muy bien, usted está hablando con Rodolfo Llorio.
Je suis Rodolfo Llorio.
Hermano de Orlando Llorio.
Le frère de Orlando Llorio.
Sacerdote jésuita.
Qui était prêtre jésuite.
Secuestrado en abril del 1976.
Séquestré en avril 1976.
Y liberado cinco meses después.
Et libéré cinq mois plus tard.
Rodolfo, ce qui nous intéresse évidemment, c'est cette grande polémique sur la responsabilité qui a été celle du pape actuel, Bergoglio, dans l'arrestation de votre frère Orlando Llorio et du confrère d'Orlando Llorio, c'est-à-dire Francisco Jalix. Selon vous, quelle a été la responsabilité à l'époque, en 1976, de l'actuel pape dans l'arrestation de ses deux frères jésuites, qui étaient des théologiens de la libération et qui étaient dans les quartiers pauvres de Buenos Aires.
Bien, todo el trabajo pastoral en el barrio Rivadavia.
Alors tout le travail de prêtre dans ce quartier, dans ce bidonville,
fue autorizada por el provincial de la orden, por Jorge Bergoglio.
Était autorisé par le chef de l'ordre, Georges Bergoglio.
A Orlando Jorio le sorprende cuando le sacan la cátedra, cuando él era vicedecano de teología de la Universidad del Salvador, que era de los jesuitas.
Alors, Orlando Jorio a été surpris quand on lui a retiré la chaire de théologie à l'université jésuite.
Sin explicación.
Sans explication.
Ahí empieza.
C'est là que ça commence.
Luego, el jefe de la iglesia, Monseñor Aramburu.
Suite à ça, le chef de l'église, Aramburu,
le saca a Orlando Jorio el permiso para celebrar misa.
A retiré à Orlando Jorio le permis de célébrer la messe.
Luego, el provincial les dice a ambos sacerdotes que tienen que dejar el trabajo pastoral en la villa.
Suite à ça, le provincial, donc le chef Jorge Bergoglio, leur annonce qu'ils doivent arrêter leur travail pastoral dans le bidonville.
Ambos sacerdotes dicen que no quieren abandonar a las personas, a la gente que ellos atendían.
Les deux prêtres ont refusé d'abandonner les gens auprès desquels ils étaient.
Ellos querían seguir adelante.
Eux, ils voulaient continuer.
Bergoglio les decía que estaba muy presionado, que no podía sostener la situación.
Bergoglio disait qu'il était sous pression et qu'il ne pouvait pas laisser faire.
Tenía informes muy graves contra ellos.
Qu'il recevait des rapports très graves sur leur comportement.
Que eran guerrilleros, que tenían
qu'ils
armas.
Étaient des guerrilleros.
Que colaboraban con montoneros o que eran directamente guerrilleros.
Qu'ils collaboraient avec les guerrilleros montoneros ou qu'ils étaient eux-mêmes des guerrilleros.
A lo que ellos preguntaban, ¿qué informes? ¿Quién los firma? ¿Quién nos acusa?
Et eux demandaient, mais où sont ces rapports? Qui les signe? Qui nous accuse?
Bergoglio respondía que no, que era información reservada, que no lo podía decir.
Et Bergoglio disait que c'était des informations qu'il ne pouvait pas divulguer.
Il n'a jamais été capable de fournir ces documents. Et vous, vous pensez aujourd'hui, Rodolfo, vous pensez qu'en fait, Jorge Bergoglio, qui était le principal des jésuites en 1976, n'était pas d'accord avec leur façon d'exercer leur ministère dans les bidonvilles. Ils étaient proches de la théologie de la libération. Ça n'était pas ses convictions. Il a voulu les écarter. Et pour ce faire, il a évoqué des ordres administratifs qui lui seraient venus de la hiérarchie.
Je l'interprète ainsi.
C'est comme ça que je comprends.
Il
voulait les écarter parce qu'ils dérangeaient.
Mais est-ce que vous pensez que s'il les écartait, par conséquent, ça les exposait à leur arrestation et à ce qui leur est arrivé?
Ellos mismos se lo advirtieron a Bergoglio.
Eux-mêmes ont prévenu Bergoglio du danger qu'ils encouraient.
Dicen, Jorge, si vos seguís dándole curso a las injurias y a todo lo que se nos dice de nosotros.
Alors, ils lui disent, si Jorge, tu continues à alimenter les injures à notre égard,
nos van a matar.
On va nous tuer.
Voilà, témoignage, début du témoignage de Rodolfo Jorio, frère donc de l'un des deux jésuites, Orlando Jorio, qui fut arrêté et torturé, qui était placé, vous l'avez compris, sous la responsabilité du responsable des jésuites de Buenos Aires à cette époque-là, Jorge Bergoglio. Il faut bien comprendre, on a essayé dans les deux émissions précédentes de faire comprendre ce qu'était le climat de cette dictature et l'implication, l'engagement total de l'Église catholique d'Argentine auprès de cette dictature. Pour donner une petite idée, en 2007, un certain Christian Van Vermich, un ancien aumônier de la police de l'époque, de l'époque de la dictature, a été condamné à la prison à perpétuité pour 7 meurtres, 31 cas de torture et 42 enlèvements. Ça veut pas dire que tous les prêtres et tout ont été des assassins et des tortionnaires, mais c'est pour donner une idée de l'engagement de l'Église. Et quelque chose comme ça, que quelqu'un comme c'est ces crimes-là que je viens de décrire, à l'évidence, quelqu'un comme qui avait des responsabilités, de hautes responsabilités, comme Jorge Bergoglio, ne pouvait pas ignorer. Il ne les a pas dénoncés, il n'a pas dit un mot. Et c'est seulement après la dictature que la conférence épiscopale a demandé pardon pour ne pas s'être engagé davantage durant la dictature. Mais pendant toute la dictature, ça a été le silence, dont celui de l'actuel pape. Ça, c'est pour le minimum de questions qu'on peut... Ça, c'est une évidence et c'est une vérité. Maintenant, quant au reste, eh bien, c'est une convergence de témoignages accablants et de documents accablants.
Eran épocas muy confusas.
Et c'était des époques très confuses, compliquées.
Calcule que el golpe militar fue el 24 de marzo.
Alors, calculez que le coup d'état militaire a eu lieu le 24 mars.
Y ellos fueron detenidos ilegalmente junto con catequistas el 23 de abril, un mes después.
Et eux ont été arrêtés le 23 avril, un mois plus tard, en compagnie d'autres religieux.
Orlando permanece una semana en la escuela de mecánica de la Armada.
Orlando, mon frère, reste une semaine à l'école de mécanique de l'armée.
Y hacen un interrogatorio breve.
Il subit un interrogatoire rapide, bref.
Y quien lo interroga.
Et celui qui l'interroge
le dice,
lui dit,
mire padre,
voyez,
nosotros
père,
fuimos a su casa,
nous sommes allés chez vous
porque nos dijeron,
parce qu'on nous a dit
que, en su casa había armas,
que chez vous, vous aviez des armes,
municiones,
des munitions,
material subversivo,
du matériel subversif
y que ustedes vivían con mujeres.
Et que vous viviez avec des femmes.
Muy bien.
Très
no
bien.
Encontramos armas,
nous n'avons pas trouvé d'armes,
no encontramos municiones,
ni de munitions.
No encontramos material subversivo.
Nous n'avons pas trouvé de matériel subversif.
Y ningún indicador de que ustedes vivieran con mujeres.
Et aucune indication sur le fait que vous viviez avec des femmes.
Usted es un buen sacerdote.
Vous êtes un bon prêtre.
Pero hace una interpretación errónea del Evangelio. Porque el Evangelio se refiere, cuando habla de los pobres...
Mais vous faites une interprétation erronée, parce que l'Évangile, quand il fait référence aux pauvres...
Se refiere a los pobres de espíritu.
Il fait référence aux pauvres d'esprit.
No a los pobres de condiciones materiales.
Pas aux pauvres au niveau des conditions matérielles.
Y ustedes los están ayudando
et
y
vous,
los están organizando.
Vous les aidez et vous les organisez.
Por lo tanto, usted no... va a recuperar su libertad en forma inmediata.
Et pour cela, on ne va pas vous rendre la liberté immédiatement.
A ambos los llevan a una casa.
Les deux prêtres ont été emmenés dans une maison.
Donde permanecen cautivos.
Où ils sont restés détenus.
Encadenados de pies y manos.
Enchaînés aux pieds et aux mains.
A una bala de cañón.
À un boulet de canon.
Lo primero que hace Orlando es llamarlo por teléfono a Bergoglio.
À sa libération, la première chose que fait Orlando, c'est d'appeler Bergoglio au téléphone, son supérieur hiérarchique.
Le comunica que ha sido liberado.
Il lui annonce sa libération.
Y Bergoglio contesta, no te puedo ayudar.
Et Bergoglio répond, je ne peux pas t'aider.
Arréglate.
Débrouille-toi.
Hay un testigo.
Il y a un témoin.
No era cura todavía, era un diácono o seminarista que casualmente estaba en la oficina de Bergoglio.
Il n'était pas curé encore, c'était un diacre ou un séminariste qui se trouvait dans le bureau de Bergoglio.
Es argentino.
Il est argentin.
Es descendiente de una conocida familia francesa.
C'est un descendant d'une famille française.
Esa persona que estaba presente cuando se hizo ese llamado.
Donc cette personne qui était présente au moment de cet appel téléphonique.
Le pregunta. ¿Con quién hablaste?
Demande.
¿Con quién habló?
A Bergoglio. ¿Avec qui tu as parlé?
Ah no, es Iorio que lo soltaron.
Non, non, c'est rien, c'est Iorio. Ils l'ont relâché.
Pero cómo no sabíamos nada.
Mais
Iorio estaba secuestrado.
Mais comment se fait-il qu'on n'était pas au courant que Iorio était séquestré?
Bueno, mira, no importa, contesta Bergoglio. Que se joda.
Et Bergoglio a répondu, écoute, c'est pas grave, qu'il aille se faire foutre.
¿Puede traducir esto que se joda?
Vous pouvez traduire que se joda, oui, qu'il aille se faire foutre.
Quien salvó a mi hermano fue la Nunciatura Apostólica.
C'est la Nunciature Apostolique qui a sauvé mon frère.
Et non Bergoglio.
Non, seguro que no.
Bien sûr que c'est pas lui.
Habemus Papam.
Alors, on va justement observer la fumée qui sort.
Je la vois. On aimerait dire qu'elle est blanche.
De la cheminée.
Moi, je la
de
vois
la chapelle Sixtine.
Ah bah oui, tout le monde est content.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Elle est vraiment blanche. Il aura fallu 5 tours de scrutin seulement.
Eminentissimum ac reverendissimum dominum, dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Franciscum.
Ah ben oui, tout le monde est content.
Donc, quel est votre sentiment quand dans votre télévision, là-bas à Buenos Aires, vous voyez Bergoglio, qui s'appelle François maintenant et qui est le pape, et qui dit « Je suis le pape des pauvres ». Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez à votre frère ?
Por supuesto, porque...
Mais bien sûr.
Mis hermanos y yo no formamos parte de ninguna conspiración.
Mes frères et moi, on ne fait partie d'aucune conspiration.
Ni ninguna intención de injuriar a Francisco I.
Et on n'a aucunement l'intention d'injurier François, le pape.
Esto no empieza ahora porque Bergoglio es papa.
C'est pas maintenant que nous commençons parce que Bergoglio a été nommé pape.
Esto hace años.
Ça fait des années.
Lo que nosotros pretendemos de la Iglesia Católica.
Ce que nous réclamons à l'Église catholique.
Es cuál fue el procedimiento administrativo por el cual mi hermano Orlando fue separado de la orden jesuita.
C'est de savoir quel a été le processus administratif par lequel mon frère Orlando a été exclu de l'ordre jésuite.
Et la conclusión es que nosotros creo que la Iglesia, no Bergoglio. La Iglesia tiene una deuda con nosotros.
C'est que l'Église, par Bergoglio, l'Église a une dette envers nous.
Cualquier cosa.
Qu'ils disent quelque chose.
Pero algo que salve la memoria de Orlando.
Mais ils doivent nous répondre pour sauver la mémoire d'Orlando.
Que nunca fue subversivo.
Qui n'a jamais été subversif.
Que cumplió con la doctrina social de la Iglesia pautaba.
Qui appliquait la doctrine sociale de l'Église.
Con la aprobación de mi autoridad.
Avec l'approbation de sa hiérarchie.
Nosotros seguiremos reclamando y seguiremos yendo a las audiencias judiciales.
Nous, on continuera notre quête et on continuera l'action juridique.
Y si realmente Francisco I va a ocuparse de esto, de la pobreza en el mundo, nosotros le deseamos la mejor de las suertes.
Et si vraiment le pape François décide de s'occuper de la misère dans le monde, on lui souhaite la meilleure des chances.
Todavía cantamos, todavía pedimos. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que hace esto en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos que nos digan de dónde se han ido. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos.
Fuimos llevados a la ESMA, la Escuela Mécanica de la Armada.
Ils nous ont directement emmenés à l'école mécanique de l'armée.
Là-bas, si j'y suis, à Buenos Aires, 1995.
Se asesinaba cotidianamente y se torturaba cotidianamente y se violaba a las mujeres cotidianamente.
Où on violait quotidiennement, on assassinait quotidiennement et on torturait quotidiennement.
ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada. C'est au beau milieu de Buenos Aires, un vaste espace vert avec des arbres superbes, des bâtiments bien propres. Cette caserne fleurie fut un enfer effroyable. Durant la dictature, 5000 femmes, hommes ou enfants ont été internés dans cet endroit, bandeaux sur les yeux, chaînes aux pieds. Durant des semaines, des mois, ils ont été méthodiquement torturés physiquement, psychiquement et disparus au nom d'un processus de purification. 30 000 disparus, par exemple, jetés vivants par les militaires depuis des avions en vol, jetés dans l'Atlantique ou dans le Rio de la Plata.
en présence parfois d'un prêtre qui lisait l'évangile selon saint Matthieu pour soutenir le moral des bourreaux, disant « Quand un militaire accomplit son devoir de répression, le Christ est en lui en bonté et en vérité. » Sur les 5000 internés de l'ESMA, une centaine ont survécu. On trouve Osvaldo Barros qui a été lui aussi kidnappé à cette époque.
Yo fui secuestrado en el año 1979.
J'ai été kidnappé en 1979.
En mi casa.
Chez moi.
Junto con mi esposa.
Avec ma femme.
Fue por la noche.
C'était pendant la nuit.
Eran gente de civil que entró armada.
C'était des gens habillés en civil qui étaient armés.
Estábamos con las manos esposadas y con una capucha en la cabeza.
On avait les mains attachées et on avait une capuche sur nos têtes.
Cuando fuimos llevados a la ESMA, que nosotros no sabíamos, llegamos primero al sótano del casino de oficiales de la ESMA.
Quand on arrive à l'ESMA, on nous dépose, on nous laisse dans les caves de la caserne des officiers de la ESMA.
El sótano, el subsuelo, era el lugar de tortura e interrogatorio.
Cette cave où on nous laisse, c'était l'endroit où ils torturaient, c'était l'endroit où ils questionnaient, ils interrogeaient les gens.
Así estuvimos unos tres días.
On reste trois jours dans cette cave.
C'est-à-dire que vous avez été témoin des interrogatoires et des tortures.
No lo veíamos. Porque teníamos la capucha en la cabeza, pero se sentían los gritos de las torturas.
On ne le voyait pas parce qu'on avait les capuches sur nos têtes, mais on entendait les cris des torturés.
Golpes y tortura con picana eléctrica.
Des coups et de la torture avec des décharges électriques.
Lo mismo que me hicieron a mí.
La même chose qu'on m'a fait à moi.
A una cama de metal.
On nous attachait à un lit en métal.
De fer.
Y nos ponían electrodos en la punta. En las manos y en los pies.
Et on nous connectait des électrodes aux mains et aux pieds.
Y luego seguir por partes más sensibles del cuerpo, como los genitales o la boca.
Après, ils continuaient sur des parties plus sensibles du corps, les organes génitaux ou la bouche.
Es interesante entender que estábamos en el casino de oficiales de la Escuela Mecánica de la Armada.
C'est important de comprendre que nous étions à la caserne des officiers de l'école mécanique de l'armée.
Casino que seguía funcionando con su actividad cotidiana.
Caserne qui continuait à fonctionner avec ses activités quotidiennes.
Donde dormían los oficiales de la Marina que trabajaban ahí en la ESMA.
Où dormaient les officiers qui travaillaient dans l'école.
Donde funcionaba la cocina del casino oficiales.
Où fonctionnait aussi la cuisine de la caserne des officiers.
Y donde había salones, donde había reuniones de trabajo durante la semana.
Et où il y avait aussi des salons où se réalisaient des réunions pendant la semaine, des réunions de travail.
Y fiestas los fines de semana.
Et des fêtes pendant les fins de semaine.
Vous entendiez tout ça?
Nosotros escuchábamos los sonidos de la fiesta.
On entendait par exemple les sons de la fête.
Los gritos, las risas, la música.
Les cris, les rires, la musique.
C'est muy loco todo.
C'est très foutu ça, mais ça a été comme ça.
Témoignage de 1995 qui renvoie à l'époque de la dictature, des choses comme celle-ci, il s'en est passé beaucoup, des témoignages comme celui-ci, il y en a eu beaucoup, et bien ces faits-là, dont évidemment Bergoglio avait connaissance, il n'en a jamais parlé, il n'en a jamais, il est resté neutre comme on dit. Et il s'est tenu silencieux. On a évoqué hier Léonie Duquet et Alice Daumont, les religieuses françaises qui ont été enlevées et torturées à cette époque et tuées.
tués, abattus par les militaires. Il y a eu d'autres Françaises et d'autres Français qui ont connu le même sort, des religieux. Parmi ces religieux, il y a eu Gabriel Longueville, un prêtre, et nous rencontrons Sophie Tenon, qui est avocate, présidente déléguée de France-Amérique latine, et qui est avocate de familles de disparus, dont la famille de Gabriel Longueville.
Alors, le prêtre Gabriel Longueville était parti dans les années 50 en Argentine pour exercer son ministère dans le nord de l'Argentine, qui est une province particulièrement pauvre. Et dans ce cadre, il s'était lié d'amitié avec Carlos de Morillas, un autre prêtre, et ils ont été arrêtés en tant que représentants de cette église tiers-mondiste en faveur des pauvres, torturés et tués. Leur corps a été retrouvé 48 heures après leur arrestation illégale. À la suite de cela, l'évêque dont il dépendait, Enrique Angelelli à La Rioja, a décidé de monter dans le village de Chamical où on avait retrouvé le corps des deux prêtres et de se livrer à une enquête. Il a donc interrogé des témoins, recueilli des observations, des preuves, etc. Et il a mis toutes ces informations dans une serviette porte-documents. Puis il est reparti en voiture à La Rioja. Sur le chemin du retour, il est victime d'un accident de voiture qui s'est révélé après destiné à déguiser son assassinat, donc son meurtre par préméditation. A disparu des lieux de ce crime le fameux porte-document qu'il avait avec lui. Alors à cet égard, il faut préciser que la justice française est compétente pour ouvrir une instruction judiciaire sur un crime commis à l'étranger à condition que la victime soit de nationalité française. C'était le cas de Gabriel. Donc en 1998, la famille Longueville a décidé de porter plainte et j'ai donc eu l'honneur de la représenter. Donc le juge d'instruction Sylvia Caillard, qui était chargée d'enquêter sur le meurtre de Gabriel Longueville, décide en 2011 d'envoyer une commission rogatoire internationale à la justice argentine pour lui demander précisément si elle pouvait avoir accès aux archives de l'Église argentine sur cette fameuse serviette. Son chef de l'époque était le cardinal Jorge Bergoglio. Alors, lorsqu'il était cardinal de Buenos Aires, ce qu'il n'est plus à l'heure actuelle, et en tant que chef de l'Église, Jorge Bergoglio aurait pu faciliter l'ouverture des archives religieuses de l'Argentine du fait de ses fonctions. La commission rogatoire internationale n'a jamais été accueillie par l'Argentine et jamais le juge Sylvia Caillard n'a eu de réponse à sa commission rogatoire de 2011. Donc, effectivement, il était important de savoir ce qu'il pouvait y avoir dans ces archives de l'Église. Il est évident que ce qui fait polémique en Argentine, c'est la participation de l'Église, alors participation active pour une infime partie, et participation passive de par son silence, de par sa non-dénonciation des crimes de l'époque. Or, il y a eu, il y a quelques années, une repentance de l'Église que beaucoup ont estimée timide. Il serait bon que l'Église argentine aille plus loin, qu'aujourd'hui elle se démarque de ce rôle antérieur de silence, de non-dénonciation des atrocités commises, et qu'effectivement, elle livre ses archives aux associations des droits de l'homme argentines, mais avant tout à la justice. Ce que je voudrais, en profitant de votre micro et ce dont je vous remercie, et c'est de faire une demande officielle actuellement pour que effectivement l'Église d'Argentine et l'Église du Vatican ouvrent toutes deux leurs archives à la justice.
Et à n'en pas douter, le pape François va faire le nécessaire. C'était Monsieur Toutblanc avec Antoine Chao et Guy Vanctil. Merci à Martine Sèvres-Grand. Beaucoup de livres de Martine Sèvres-Grand. Vous trouverez toutes les précisions sur le site de France Inter. Merci à Rodolfo Iorio, à Maître Sophie Tenon. Autre chose tout à fait différent qui n'a surtout rien à voir. Le mensuel, le ciné-mensuel est en vente et il bouge encore visiblement à l'intérieur. Le vieux ciné, vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique programme, émission là-bas si j'y suis. Et également sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Clément Atlan. Franck Adhérer et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Léa Minot. Attends vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis, ça va chauffer au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Ce sont des robots à forme humaine, on les appelle les Hubots.
Dis-moi, est-ce que tu te souviens de cet immense magasin où on t'a trouvé ?
Ils nous servent de domestiques, d'assistants. Ou plus si affinité.
Certains clients chercheront toujours un plus, des expériences plus intenses.
Ils sont, comment dire, presque comme nous.
Je veux ma liberté.
Rectificatif. Ils sont comme nous.
J'en ai vu un qui m'a regardé.
Découvrez Real Humans, la nouvelle série d'Arte, ce soir à 20h50. Arte, la télé qui vous allume. À revoir sur Arte plus 7.
France Inter présente Au-delà des collines de Christian Mungiu en DVD. Alina, qui revient d'Allemagne, veut y emmener son amie Wojcicka, la seule personne qu'elle n'ait jamais aimée. Mais celle-ci a rencontré Dieu. Or, en amour, il est bien difficile d'avoir Dieu comme rival. Au-delà des collines, un DVD France Inter.
France Inter, partenaire du Festival Littérature et Journalisme du 11 au 14 avril à Metz. Autour de 150 invités internationaux, 4 jours de rencontres uniques en France à la croisée des écritures. Entretiens, débats, expositions et spectacles, plus de 70 événements programmés pour explorer le réel et l'actualité. Un rendez-vous incontournable parrainé par Amin Malouf. Retrouvez le festival Littérature et Journalisme dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du festival Sur les frontières du 16 au 28 avril au Théâtre National de Chaillot. Ils sont originaires du Maghreb, du Proche ou du Moyen-Orient et ils expriment leurs doutes, leur colère, leur imaginaire via la danse, le théâtre ou le cinéma. Ce nouveau festival sur les frontières se fait l'écho des printemps arabes et continue d'interroger les révolutions en marche. Retrouvez le festival sur les frontières dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Après Pierre Moscovici, le patron de l'administration fiscale dément aujourd'hui avoir lancé une mission secrète en Suisse pour savoir si Jérôme Cahuzac y détenait ou non un compte caché. Cela aurait été contraire au droit, dit Bruno Bézard. Selon l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, pourtant, Bercy y aurait envoyé des fonctionnaires, ce qui aurait permis à Pierre Moscovici de savoir dès décembre que l'ancien ministre du Budget avait un compte en Suisse. Cet après-midi, les présidents UMP des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat, Gilles Carrez et Philippe Marini, ont décidé eux de se rendre à Bercy pour demander des comptes. Je suis un ministre intègre qui n'a rien à se reprocher, a répondu encore Pierre Moscovici cet après-midi. C'était lors des questions au gouvernement au Sénat. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence ouvre cet après-midi la voie à l'indemnisation des victimes des prothèses mammaires, à toutes les victimes en l'occurrence, même à celles qui se sont fait retirer à titre préventif les prothèses fabriquées par la société PIP. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a en effet infirmé les ordonnances rendues fin janvier par le juge Le Goff. Cette décision intervient à quelques jours du procès à Marseille pour tromperie aggravée. Un détenu s'est suicidé hier dans la nouvelle maison d'arrêt de Nantes. Il a été retrouvé pendu. C'est le troisième suicide dans cet établissement en 3 semaines. Les ministres des Affaires étrangères du G8 sont réunis aujourd'hui à Londres. Au menu des discussions, la Syrie. Les chefs de la diplomatie des 8 pays les plus avancés de la planète se sont dit atterrés par le nombre de morts. 70 000 selon l'ONU en un peu plus de 2 ans et plus d'un million de réfugiés. Dans leur communiqué final, ils ont appelé le monde à accroître son aide au peuple syrien. Quant au cas de la Corée du Nord, le G8 a condamné dans les termes les plus forts l'attitude de Pyongyang. Il menace de nouvelles sanctions le régime de Kim Jong-un. Après avoir passé 3 jours à Chypre, étape obligatoire pour tous les soldats français de retour de mission, les 100 premiers du Mali, des parachutistes de Tarbes, ont regagné aujourd'hui la France. Les besoins en liquidité de Chypre sont plus importants qu'annoncés. Selon le gouvernement chypriote, aujourd'hui, ils sont passés de 17 à 23 milliards d'euros. Les ministres des Finances de la zone euro en débattent d'ailleurs actuellement à Dublin, en Irlande. A priori, c'est à Chypre d'assumer le surcoût. Nicosie pourrait décider de vendre de l'or. Il ne pourra pas entraîné Jeanne Ilongo, sa femme. La cour d'appel de Grenoble a rejeté aujourd'hui la levée du contrôle judiciaire de Patrice Ciprelli. Le mari de la cycliste fait l'objet d'une mise en examen depuis février 2012 pour avoir acheté de l'EPO, usage personnel, avait dit alors à l'époque Patrice Ciprelli. Enfin, rendez-vous à 17h40 pour la finale du 50 mètres d'eau au championnat de France de natation à Rennes. Et il y aura du beau monde au départ. Jérémy Stravius, meilleur temps des séries, Camille Lacour et Florent Manodou, frères d'eux, en jeu deux tickets pour les mondiaux de natation de Barcelone cet été. Vous écoutez France Inter, il est 16h03. Et comme j'avais dit, l'avait dit à la technique, on me l'avait dit, je n'ai pas retenu, il n'y a plus de promo. Donc c'est à vous tout de suite, Frédéric Lodéon.
Petite pénitence, bisou à ceux que vous aimez.
Voilà. C'est l'idée.
C'est fait, on vous retrouve quand même à 17h, Laetitia Gallier.
À tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour et merci d'être avec nous. Peut-être que vous avez vu ce film très joli, très touchant et puis très musical, Le Concert, paru en 2009. Donc un orchestre un petit peu désespéré, un petit peu perdu aussi, va venir à Paris un peu par accident, mené par un chef qui y croit quand même. Et puis il y a une violoniste, c'est l'actrice Mélanie Laurent. Évidemment, c'est pas elle qui joue vraiment. Elle a été, on dirait pour le tennis ou autre sport, coachée. En tout cas, elle a été guidée par une vraie violoniste, bien sûr, Sarah Nemtanou, qui est soliste de l'Orchestre National de France, et elle vient de nous proposer un enregistrement avec le fameux concerto de Tchaïkovski, qui est presque la vedette musicale de ce film. Voici Sarah Nemtanou, l'Orchestre National de France, avec son cher Kurt Mazur. Ils s'aiment beaucoup tous les deux, ils se respectent énormément, et ils ont fait de la belle musique, ça tombe bien, et c'était en plus en public, conclusion du concerto de Tchaïkovski. We'll be right back. Allegro vivacissimo, le final du grand pour violon de Tchaïkovski enregistré au Théâtre du Châtelet l'année dernière avec en soliste Sarah Nemtanou, l'Orchestre National de France, dirigé par Claude Mazur, un tout récent disque Naïve qui soutient aussi Amnesty International. C'est-à-dire ce disque est en appui à l'action d'Amnesty International que vous connaissez évidemment, association de défense des droits humains un peu partout dans le monde. Et c'est beaucoup de travail comme vous le savez aussi. Sur ce même disque, on trouve une autre merveille de Tchaïkovski, le Sextuor Souvenir de Florence, et qui, bien que évidemment à connotation légèrement italienne, en tout cas il y a pensé en Italie, mais il reste complètement russe Tchaïkovski quand il a conclu ce magnifique chef-d'œuvre, à mon avis, enfin ce moment de musique de chambre qui est un monument. Il était déjà rentré en Russie, mais enfin il avait de beaux souvenirs et il est resté très slave, et on ne se refait pas, et heureusement. Voici un peu l'allegro moderato de ce Sextuor, toujours interprété par Sarah Nemtanou, avec des collègues des deux orchestres de Radio France, donc le National et puis le Philharmonique, je donnerai leur nom en détail après l'audition de ce morceau.